que c'est la question auquel personne ne sait vraiment répondre. Certains mettent le curseur de du droit à la différence à zéro en disant quoi qu'il arrive, il faut une assimilation. Mais ça, c'est vraiment refuser une double appartenance et refuser à un moment une liberté aussi religieuse ou autre. Mais à partir de quand on met ce droit à la différence et jusqu'où doivent aller les valeurs communes?
Le G1000 n'a pas déjà tenté des choses comme
mais
ça?
Pas
il
sur
a
ces
reçu
aspects-là.
Un écho assez...
C'était un groupe
froid.
De 1000 citoyens
oui.
Qui étaient
oui.
réunis.
Mais je pense que c'est vraiment des méthodes de cet ordre-là qui doivent être cadrées et qui doivent aussi se faire parallèlement à des discussions au sein du monde des médias, au sein du monde politique, par ailleurs, avec des académiques. Et
ça débouche sur quoi, alors, après?
Mais l'idée, c'est si l'on fait cette opération avec un groupe de pilotage, et évidemment une institution neutre qui a l'habitude, comme, imaginons, la Fondation Rabaudouin, qui intègre les universités et autres, c'est de pouvoir sortir après... Ça peut être 18 mois, ça peut être 2 ans. Ce serait d'ailleurs très bien que ça puisse se faire pour que, pour les prochains projets de législature après 2019, les personnes et le personnel politique essayent d'appliquer, de traduire ce qui en sera sorti. C'est que ça donnerait des indications, en tout cas, de ce qui rassemble. Moi, j'aimais beaucoup le slogan de Manuel Valls, hélas, il a changé, c'était faire gagner ce qui nous rassemble. C'est ça, maintenant, qu'on doit essayer de faire.
Il y avait ce projet de déclaration de valeurs qui avait
voilà.
été mise par...
Et donc, ça peut même être un préambule de constitution et de voir aussi à partir de quand on respecte l'autre, comment est-ce qu'on gère la pratique religieuse dans des cultes reconnus dans la société, jusqu'où, oui, c'est acceptable, jusqu'où pas, et comment est-ce qu'on vit la neutralité avec respect.
Alors, une dernière question sur ce sujet, puisque l'un des enseignements de l'enquête, c'est la méfiance dans les institutions et dans le politique. Votre réaction par rapport aussi au livre que Jacqueline Galland vient de publier, donc qui déballe un peu la vie des politiques, le mauvais côté aussi de la vie politique. Votre réaction par rapport à ça? Est-ce que c'est pas creuser le fossé?
Moi, j'ai pas du tout envie de faire de commentaires par rapport à ce livre. Voilà, moi, c'est pas mon genre. Je vais pas te faire de commentaires parce que ça n'a aucun intérêt, je pense.
C'est un commentaire.
Par contre, ce qu'il faut faire en tant que politique, c'est analyser et prendre en pleine figure ce qui arrive, non pas pour tomber dans le poujadisme en se disant tous mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est malhonnête, qu'est-ce qu'on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on n'a pas le sens de l'intérêt général. Enfin, je pense que dans tous les partis, il y a une série de gens bien et beaucoup et des mandataires locaux qui bossent, qui sont honnêtes, etc. Par contre, il y a des pratiques qui ne vont pas et il faut les réguler. Et surtout, moi, je crois que le gros débat que l'on doit mener, c'est que nous sommes arrivés à l'épuisement de toute une série de systèmes, et notamment de notre système représentatif tel qu'il est là maintenant, et de notre système particratique. Je ne dis pas qu'il ne faut plus de partis, mais il faut organiser les mouvements politiques qui doivent être évidemment pluriels dans la société, et c'est sain d'une autre manière, de manière beaucoup plus démocratique et en phase avec
les élus, par exemple.
Non, moi ce que sur certaines choses, oui, moi je ne suis pas pour la démocratie directe où on fait tout par référendum, parce que c'est profondément individualiste et égoïste. Et moi, mon intérêt citoyen, j'ai raison, parce que les citoyens individuellement n'ont pas toujours tous raison, voilà. On a raison que quand on fait de l'arbitrage et de l'intermédiation avec l'intérêt opposé de mon voisin qui n'est peut-être pas le même. Donc, on ne doit pas ne faire que des référendums et simplement de la démocratie directe. Mais par contre, réimpliquer les citoyens de manière beaucoup plus transparente dans le processus de décision et dans le processus parlementaire et peut-être dans les processus, voilà, d'adoption de législation, c'est vraiment très
intégrer,
important.
Intégrer, par exemple, des citoyens
oui.
dans des commissions
oui.
au Parlement qui décident des lois.
Moi, je trouve intéressant que quand on débat, par exemple, et ça, moi j'en appelle aussi, on avait fait les fameuses assises à l'époque de la nouvelle gouvernance, c'était Raymond Dinguenry, je crois que c'était en 91, mais je pense que les différents parlements, les 5 parlements de notre pays, pourraient se pencher et peut-être piloter toute la réflexion sur la manière avec laquelle on doit modifier notre système représentatif. Moi, avoir des groupes de citoyens qui puissent venir à un moment interpellé, ça doit être régulé. Et il ne faut pas pour autant supprimer...
Dans les commissions, on peut entendre des gens. Vous leur donnez un pouvoir supplémentaire.
Oui, mais ça, en général, c'est des experts. Dans les conseils communaux, oui, on peut entendre des revendications. Beaucoup moins dans le système parlementaire.
On
moi, je trouve
leur
très intéressant...
quelque part un droit de vote.
Alors, je ne dis pas qu'il faut nécessairement un droit de vote, en tout cas un droit d'interpellation, etc. Par contre, écouter les avis, peut-être voir partiellement, comment prendre en compte... une série d'avis de manière beaucoup plus obligatoire, etc., en devant rendre compte, répondre aux questions légitimes. Et on sait très bien quand un grand groupe de citoyens s'exprime que ça peut évidemment faire évoluer une législation, mais en ayant eu l'information, sans simplisme, etc. Donc moi, faire venir et faire immerger la citoyenneté des groupes de citoyens un moment dans le processus parlementaire, oui, avec beaucoup plus de transparence aussi sur les documents, comme on le veut au niveau de l'Europe, mais qu'on le fasse aussi au niveau national, et de voir aussi comment on renforce la pédagogie politique au sein de la société pour éviter les amalgames et le simplisme.
Alors, puisqu'on parle du processus parlementaire, on va poursuivre sur des dossiers d'actualité, Joël Milquet, et notamment les travaux de la commission Kazakhgate.
Le Grand Oral, RTVF le soir.
C'est cette semaine, en effet, qu'ont débuté les travaux de la commission chargée de faire la lumière sur la manière dont la loi de la transaction pénale a été votée. Pour le président de cette commission, il pourrait même bien s'agir d'une affaire d'État. Et puis, il y a aussi l'affaire Publifine, avec des rémunérations très élevées versées aux représentants politiques locaux des comités de secteur. Alors, vos réactions et vos commentaires, Joël Milquet, c'est avec vous, Béatrice Delvaux.
Oui, en fait, parce que vous évoquez maintenant, vous venez d'évoquer des possibilités d'intégrer les citoyens dans des panels, de leur demander leur avis. Mais en fait, il y a des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord. Il n'y a pas besoin de citoyens pour demander leur avis. C'est le citoyen, il demande globalement aux politiques de gérer les affaires de l'État, les affaires de public, avec le sens de l'éthique, au service du citoyen lui-même et des intérêts publics, et pas en ignorant un peu que ses propres relations à l'argent, à l'éthique, etc. Et de l'autre côté, il demande aussi, parce que j'entendais bien votre réponse sur le livre de Mme Galland, mais Mme Galland, quand elle dit « si le citoyen savait ce qui se passe », dans la machine politique, parfois, il serait bien surpris. Alors aujourd'hui, on lui fait, ses proches, enfin le sérail politique lui fait un procès, un vilain procès, parce que soudain, elle est devenue horrible, et comme elle n'est pas crédible, elle ne peut pas être entendue, alors qu'en fait, beaucoup de choses qu'elle dit sont des choses, une partie des choses qu'elle dit correspondent à une réalité. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas critiquer la manière dont le monde politique fonctionne? Est-ce que dans l'occurrence, pour l'affaire Publifin, on a le sentiment, le citoyen peut avoir le sentiment, que la condamnation a été tardive, qu'elle n'a pas été très rapide, certainement du côté de ceux qui étaient les plus concernés?
Bien sûr qu'il faut pouvoir critiquer le monde politique et surtout faire les autocritiques nécessaires. Donc, dans tout le processus, en tout cas, d'éthique, de renforcement des règles, etc., reconnaissons que, suite notamment aux affaires depuis 2006 à Charleroi, etc., il y a énormément de nouvelles règles qui ont été prises, strictes, et qu'il y a une série de choses et de pratiques qui ont complètement disparu, j'espère, en tout cas, et qui se sont beaucoup moins pratiquées. Est-ce que c'est suffisant ? Attendez, est-ce que c'est suffisant ? Apparemment pas.
Donc, et comment expliquez-vous, l'affaire Publifin, quand ça se produit ?
Écoutez, l'affaire Publifin, moi je l'ai découverte comme vous dans les journaux, avec exactement la même surprise et la même condamnation éthique que je puisse faire. Chez nous, Benoît Lutgen, exactement la découverte de la même manière, parce que très honnêtement, il n'était pas au courant, c'est inadmissible.
Oui, mais en même temps, il y a des membres de votre parti, de plein d'autres partis.
Donc je ne vais pas commencer à dire que voilà, il n'y a pas de responsabilité au niveau local de quiconque. Bien évidemment, je pense que le parti assume comme les autres le fait que ces pratiques ont été partagées dans le monde liégeois par plusieurs familles politiques. Je trouve que ça ne va pas, que par ailleurs les montants étaient complètement démesurés, que apparemment il n'y avait même pas de réunion, etc. Donc ça demande dès lors, si ceci était possible, c'est qu'alors les règles n'étaient pas encore suffisantes au niveau des rémunérations, et donc c'est sans doute...
Vous pensez qu'il y a une exception liégeoise dans la gestion des intercommunales, qu'il y a une exception liégeoise
ou... Il ne doit pas y avoir d'exception liégeoise. Il y a parfois des pratiques, mais qu'il faut abandonner absolument.
Alors, on a beaucoup
parlé... Allons plus loin sur les rémunérations qui doivent être alors... Si cela était possible légalement, il faut encore l'analyser, mais alors il faut mettre des plafonds. Il y a déjà des plafonds. Regardez à Bruxelles, ils ont pris toute une série de nouvelles mesures bien avant cela pour qu'il y ait des plafonds très clairs au niveau des rémunérations dans les intercommunales qui doivent être aussi lié à des jetons de présence, etc. Mais que ce soit au moins uniforme partout. Et là aussi, je pense que l'ensemble des parlements devraient se mettre d'accord pour avoir exactement, au fond, des rétributions identiques, transparentes, avec des conditions, etc. Il y a des règles qui existent un peu partout, mais apparemment, il y a des trous. Et ben, donc, il faut remplir les trous pour éviter que ça se reproduise, bien évidemment.
On a beaucoup parlé de ceux qui avaient touché de l'argent de manière indue, si on en croit les règles de droit, et on verra bien jusqu'à ça ira, dans ces conseils stratégique de
Publifin,
conseil de secteur de Publifin. Mais quand on remonte un peu plus haut, Au niveau du bureau exécutif du conseil d'administration, on retrouve des gens particulièrement importants et particulièrement pesants. André Gilles au niveau du PS, Stéphane Moreau qui est quand même le grand patron de l'ensemble Tecteo, et puis des gens aussi qui sont très puissants au CDH. Dominique Drillon, par exemple, se trouve au conseil d'administration, se trouve au comité exécutif, personnages qui ont quand même mis en place ces comités.
Et je pense en tout cas que moi je ne connais pas le détail et je ne suis pas et plus présidente de parti.
Alors là, on n'est pas encore en train de parler d'illégalité.
Non, mais à la limite que la justice fasse son travail si c'est nécessaire, bien évidemment. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir des rémunérations de cet ordre-là. Il faut des choses transparentes. Il faut que ça colle à des vraies prestations. Il n'y a pas besoin d'avoir aussi des conseils pléthoriques. Moi, je ne sais pas quel est le nombre, à vrai dire. Je suis peu loin.
C'est pas très compliqué. Vous avez fait
un peu loin de ça. Mais donc, voilà. Donc, je pense que
l'ensemble des éléments que je vous donne ici.
Je pense que le gouvernement wallon, monsieur Furlan, a déjà apparemment décidé d'une série de règles et que des règles complémentaires vont être prises pour éviter ce genre de choses.
L'opposition libérale exige, par exemple, le salaire de M. Stéphane Moreau. On ne parvient pas à le connaître.
Je pense tout à fait.
Vous trouvez ça normal ?
Mais non, je pense tout à fait légitime. Moi, je suis pour la transparence complète. Donc, quand on a un salaire public et quand on a des mandats publics, d'ailleurs, il y a des déclarations de mandat, etc., je pense que ça doit être publié. Il y a d'ailleurs plein de démocraties qui le font. Pour le moment, c'est un site qui le fait de manière citoyenne. Moi, je pense que c'est publiquement que l'on doit pouvoir organiser les transparences.
Est-ce que vous pensez que Benoît Lijen doit demander, par exemple, à M. Drillon, qui est bien le représentant quand même du CDH dans ce dossier-là, des explications ?
Je pense que Benoît Lijen est en train de prendre toutes les mesures nécessaires et qu'il était profondément heurté lors de notre réunion que nous avons eue à la rentrée par ce qui s'était passé. Et donc, oui, il y a des explications, mais il y a des choses qu'il ne savait pas, comme d'autres, d'ailleurs, je pense.
Comment expliquer, mais je sais que c'est plus lié peut-être à la nature humaine, mais c'est quand même, ça reste très étonnant. Au moment où on se demande, on se dit qu'on va faire des colloques, des états citoyens pour savoir comment rapprocher le citoyen de la politique, il y a encore une série d'hommes politiques, et pas peu, et pas bien placés, qui ne comprennent pas qu'à un moment donné, il y a des pratiques qu'on ne peut plus mener et qu'il faut leur des gardes chiourmes. Il faut que la presse dénonce, il faut que la justice s'en empare.
Oui, mais ça ne touche pas, ni des ministres, ni des présidents de parti qui apparemment n'étaient pas nécessairement du tout au courant. Ça touche des mandataires locaux qui, se sont sans doute organisés entre eux, dans des logiques où on se dit on a toujours fait comme ça.
Mais pas entre eux, parce qu'il y a des gens au conseil d'administration.
Oui, moi je condamne ça fermement et pas pour faire plaisir, parce que quand j'étais présidente de parti avec Élodie Roupaud, on a pris toutes ces mesures que je souhaitais, que j'avais demandé, sur lesquelles j'ai travaillé, on a fait les textes, pour faire déjà un premier volet de révolution éthique à l'époque. Notamment, souvenez-vous, tout ce qui se passait dans les logements sociaux, tout ça a disparu, heureusement, et on a régulé les 150%. Donc les élus sont beaucoup plus imposés, etc. Apparemment, il y a des trous qu'il faut pouvoir rencontrer. Donc moi, je ne suis pas au gouvernement wallon, mais je pense que les mesures vont être prises, et elles doivent être prises.
Alors, Joanne Milquet, malgré tous vos efforts, les vôtres, ceux de votre président de parti, Benoît Lijen, votre parti est en baisse dans les sondages. Ça nous amène à notre troisième sujet, c'est le dernier baromètre politique. Par rapport aux élections fédérales de mai 2014, 9,4% d'intention de vote en Wallonie contre 14% aux élections générales de 2014. C'est, soit dit en passant, deux fois moins que le PTB qui est crédité à plus de 18%, recule aussi à Bruxelles. Qu'en pensez-vous ? Peut-on parler d'une crise ? Vos commentaires, c'est avec vous Jean-Pierre Jacquemin.
Premier commentaire aux chiffres que Jacques vient de livrer. Est-ce que les sondages, vous allez me dire, ce n'est qu'une figure, une image à un moment donné, est-ce que ça vous inquiète ?
Je pense en tout cas que les derniers mois qu'on a vécu démontrent à quel point les sondages ont montré leurs limites. Alors oui, il faut bien évidemment écouter. D'abord, les sondages, c'est le jour de l'élection. On en est loin. En général, on fait toujours beaucoup plus que les sondages. C'est pas pourtant qu'on ne va pas se dire qu'il n'y a pas de problème. Mais d'abord, les sondages, moi, j'ai toujours été réservé quand ils étaient positifs comme quand ils sont négatifs. Nous sommes un parti qui est en partie au pouvoir. On est dans l'opposition au niveau fédéral et on est au pouvoir au niveau des entités fédérées. Mais comme les autres partis dits traditionnels, tels que les exaltent certains, parfois avec des accents aussi très populistes, mais tous les partis traditionnels du moment en chez nous, comme en France, comme partout, que ce soit écolo, que je ne vois pas en meilleure forme nécessairement ou autre, et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de gens bien et qui ne disent pas des choses intéressantes et qu'on n'a pas des liens aussi de vision de société universelle, généreuse, etc. Ben, tous les partis traditionnels connaissent une crise liée à ce qu'on est en train de vivre. La problématique de la peur, les attentats, le changement du monde, le fait que nous n'avons pas pris sur cette gouvernance internationale, que la démocratie ne s'applique pas suffisamment au niveau européen, qu'il y a une difficulté de compréhension. Donc tout ça se reporte un peu
et donc,
les partis traditionnels, dont le CDH, bien évidemment.
Il y a un avenir pour le centre.
Comme d'autres.
Parce que certains le perçoivent de moins en moins bien. Vous le disiez même tout à l'heure vous-même, les gens sont perturbés par rapport à leur religion et tout ça. Finalement, est-ce que le mot chrétien ou catholique...
On n'est pas chrétien.
Est-ce que vous ne regrettez pas de l'avoir retiré?
Mais non, mais... enfin.
Parce qu'il donnait des valeurs.
Non, jamais. C'est pas une question de valeurs, parce que je trouve que les valeurs de l'humanisme chrétien...
François Fillon fait référence aux valeurs chrétiennes.
Oui, mais moi, on va pas commencer des guerres de religion et des guerres de civilisation pour faire plaisir aux gens. Moi, je suis pour fédérer. Moi, je suis une universaliste. Ce que je veux, c'est une société mixte qui réussisse, où les gens se respectent, qu'ils soient de confession juive, qu'ils soient laïcs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans. Et ça marche dans énormément de pans de la société. Par contre, il faut encore résoudre différents problèmes. Moi, je pense justement que ce qui est notre projet, qui n'est peut-être pas toujours bien connu, etc., mais qui séduit en France, parce que quand on entend Macron qui dit, comme moi je disais au moment où on a créé le CDH en 2002, donc ça date quand même un peu, et où on était peut-être pionnier, le clivage droite-gauche est dépassé, ce qui est vrai aussi largement, il faut pouvoir
transcender
rendre compatible et la solidarité, et la libre initiative, etc.
Mais ça veut dire qu'il y a un problème de message? Parce que vous dites finalement le message
alors,
porteur de message.
Mais non, mais parce que c'est tellement facile de comprendre la gauche, la droite, les ouvriers contre les patrons. Est-ce que la société est encore clivée comme ça? Non.
Madame Milquet, est-ce qu'il y a un problème de porteur de message? Puisque vous dites que le message en lui-même n'est pas remis en...